Le masque et la plume. À toutes et à tous, bienvenue toujours sans public, mais les retrouvailles sont proches sur la scène du théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité littéraire avec Patricia Martin de France Inter, Olivia de Lamberterie du L, Frédéric Becbédé du Figaro Magazine et Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard. Pour parler de romans signés Sarah Chiche, Éric Reinhardt, Simon Liberati, Éric Laurent et Isabelle Carré, il s'agit de 5 parmi les 511 nouveaux romans français et étrangers de cette rentrée littéraire à laquelle on pensait que la pandémie ferait subir à un régime minceur. Eh bien non, la production reste très forte avec seulement 13 titres de moins que l'an passé. Une rentrée qui ne fait que commencer ce week-end. Il faudra attendre la mi-septembre pour voir paraître les livres très attendus d'Emmanuel Carrère, de Jean-Philippe Toussaint ou encore de Laurent Mauvignier. Beaucoup de valeurs sûres, moins de découvertes, puisque les vraies victimes sont les primo-romanciers. Et selon les relevés toujours très précis de Livre Hebdo, la rentrée 2019 annonçait 82 premiers romans. Il y en a cette année 65. Donc là, pour le coup, la chute est très lisible. Dans le courrier de la semaine, Stéphane Ferrière reproche à Patricia son indulgence à l'égard d'Alexandre Jardin et de son roman Française.
Non, c'est chez, Arnaud qui avait
chez
adoré.
Albin Michel.
C'est toi qui l'avais beaucoup aimé.
Oui, je suis d'accord.
Tu l'as aimé plus que moi.
Jardin a utilisé la vie de son père dès le départ, dit Stéphane Ferrière. Il est tombé dans le sirupeux et le vide quand il s'est marié et depuis, il instrumentalise sa famille ou les gens de peu. C'est un busybody qui se regarde écrire et jouer un rôle. Cher Masque, ajoute Delphine Blanchard de La Roche-sur-Yon, quelle déception d'entendre tes critiques déclamer leur passion à Alexandre Jardin. Heureusement, il y avait Jean-Claude Raspienjas pour rééquilibrer le débat. Que dire de Française ? C'est une daube, une bouse, un nanar qui se veut donneur de leçons, dit Delphine Blanchard. C'est indécent vis-à-vis de la cause qu'il prétend défendre. Alexandre Jardin veut lire et faire lire, soit, mais par pitié qu'il arrête d'écrire. Ce n'est plus un livre, écrit Véronique Sars de Strasbourg. C'est une benne qui ramasse tout sur son passage. MeToo, les gilets jaunes, les femmes voilées, j'en oublie. Et dans une langue fourre-tout, elle aussi. Dites les masqués, demande Christiane Forestier de Montréal. Comment avez-vous pu tomber dans le piège de cet héritier qui clame partout être le porte-voix de la classe populaire ? Mais vous n'avez donc pas senti combien cette voix sonne faux ? Vous voulez ajouter quelque chose, non ?
Il était temps que je revienne, c'est tout. Il suffit que je m'en aille, ils disent du bien d'Alexandre Jardin,
non,
mais ça ne va pas
dire,
la tête.
Olivia, non, rien.
C'est toi maintenant le porte-voix de la classe populaire,
exactement.
C'est ça ?
D'accord.
À propos de littérature populaire, Hervé Guérin regrette que la presse ait si peu parlé, y compris le masque, de la disparition le 26 avril de Georges-Jean Arnaud, à ne pas confondre avec le Georges Arnaud du Salaire de la Peur. C'était un grand auteur, il a écrit beaucoup de bijoux pour la collection Police et de la SF. Il a créé des mondes et j'ai beaucoup de respect pour ces auteurs dits populaires. Et j'ai regardé effectivement sur Wikipédia, il a signé plus de 150 romans dans des domaines aussi variés que la SF ou le polar. Enfin, André Rouy, ça j'aime beaucoup, d'Aix-en-Provence, nous confie à avoir parcouru un roman de délit trouvé dans une boîte à livres. Le plus intéressant se trouvait en fin de volume dans la liste des autres publications des éditions Taillandier et j'y ai découvert ainsi les titres assez évocateurs de l'espagnole Luisa María Linares. Ça vous dit quelque chose ? En voici quelques-uns, apparemment avec un énorme succès. Si certains d'entre vous, au Masque et la Plume, connaissent ces romans, peuvent-ils me dire ce que ça vaut ? Je doute que vous sachiez. Alors, les titres, 12 lunes de miel, cette semaine on m'appelle Cléopâtre, passionnément infidèle, comment épouser un Premier ministre ?
Ah, ça peut être intéressant.
Ou encore 8 heures Jean, 10 heures Paul. Donc, vous ne connaissez pas Madame Linares, non ?
Non,
même pas. Ça donne envie. Les titres sont alléchants.
Comment épouser un Premier ministre, c'est pas mal quand même.
Oui, ça dépend du Premier ministre.
Oui, si c'est l'actuel, c'est pas évident.
Et je te laisse,
et on commence avec Saturne de Sarah Chiche au seuil, une psychanalyste à qui on doit l'an passé Les Enténébrés. Et ce roman s'ouvre par la mort en 77 de Harry, jeune, à 34 ans. Il était le père d'une fillette de 15 mois. Sarah, il était aussi l'héritier d'une dynastie de médecins ayant quitté l'Algérie après l'indépendance et bâti un empire de cliniques privées en France. Mais voilà, contrairement à son frère, Harry était un rêveur, pas un gestionnaire. Il aimait les étoiles et avait épousé une femme, Ève, un peu trop libre et trop belle pour son milieu bourgeois. Et c'est le portrait romancé donc de ce fantôme de père que fait son orpheline de fille. Roman dédié, je cite, aux vulnérables, aux endeuillés, et dont la dernière phrase est « Tout est perdu, tout est splendide ». Olivia ?
C'est un livre aussi sur sur sa mère. Moi, j'ai trouvé que c'était ça qui était très très beau dans le livre. C'est le portrait de sa mère. C'est vraiment un roman de psychanalyste. Hein. C'est comment une histoire familiale terrible peut vous tuer. Et comment vous pouvez faire pour vous en sortir. C'est extrêmement douloureux, parfois peut-être un peu trop à mon goût. Mais je trouve que ce qui est très réussi, ce sont les deux frères. C'est le portrait de la mère, une femme absolument splendide, qui fait des photos érotiques, qui se prostitue un peu et qui un jour rencontre un homme, le père de l'héroïne, qui va essayer de la sauver de ça. Il y a une scène au milieu du livre que je trouvais sublime. Le père se réveille, il est en nage, il a fait un cauchemar et il trouve sa femme qui est nue dans le salon et elle a mis tous les bijoux qu'il lui a offerts à côté d'elle et elle est en train de se balancer un peu comme un enfant autiste. On la voit cette scène. Voilà, ça c'est très beau. Tout ce qui se passe en Algérie est très beau, comment cette famille explose.
Il y a des passages assez chauds.
Il y a des passages
érotiques, vraiment
douloureux. Moi, j'avais pas du tout aimé celui de le précédent. Vraiment, j'avais pas réussi à le lire. Celui-là, je l'ai lu d'une traite.
Frédéric, c'était à peu près la même histoire, le précédent d'ailleurs. Hein. Il y avait aussi ce père qui meurt quand sa fille est très jeune. Que dire ? Je suis très heureux d'avoir été repris au masque, mais là, je demande une augmentation si le programme comporte trop de livres de ce genre. J'ai un problème avec l'écriture psychanalytique, c'est que c'est mal écrit, en fait. Hein. Souvent, le vocabulaire d'auto-analyse ne donne pas de bons romans. Je peux citer un exemple, donc là, c'est la mort d'un père, d'une leucémie. Ils avaient tous en eux l'espoir que ce ne serait qu'un mauvais rêve, mais en fait, tout cela, ce n'est pas un rêve. Tout cela, c'est pareil pour tout le monde. Tout cela, ce n'est pas grand-chose. Tout cela, ce n'est que la vie et finalement, la mort. Ça, c'est page 20. Et c'est que la page 20. Et voilà, et après, ça continue comme ça. Je trouve que c'est un imbroglio de lamentation familiale.
Non, là, tu exagères.
Non, si tu veux, sur le plan de ce que tu disais sur la douleur ne suffit pas, en fait.
Oui, mais il n'y a pas que de la douleur dans ce livre. Il y a l'histoire d'une famille.
Comme tu disais, l'histoire de l'Algérie, enfin, même s'il y a des choses terribles.
Une famille déchue qui va se reconstruire en France. Et je trouve que toute cette histoire familiale est très bien racontée.
Qui va d'ailleurs faire fortune, hein, avec ses...
Absolument, qui va être reconstruite.
Avec ses cliniques
mais
et son
médical. Mais après, il y a un truc...
Oui, c'est le même projet que Leïla Slimani, d'ailleurs. Hein.
Oui,
sauf que
Leïla,
c'est au Maroc et là, c'est en Algérie.
Oui, mais là, ils se haïssent, ils se détestent, ils s'autodétruisent, ils se détruisent. C'est la lutte entre les deux frères, c'est Saturne qui dévore ses enfants.
Oui,
je trouve qu'il y a
beaucoup
de références assez intéressantes.
Je ne te parle pas de l'histoire, je te parle de la forme, là. Moi, je te dis que la forme, c'est quand même ça, la littérature. C'est mal écrit, je suis désolé.
Non, c'est pas mal écrit, non.
À côté, Isabelle Carré, c'est Virginia Woolf.
Oh non.
On va en parler.
Patricia.
Laisse tranquille Virginia,
d'abord, quand tu parles de lamentation, moi, je trouve qu'au contraire, plus les enfants souffrent, et c'est quand même une petite fille, d'abord, qui va souffrir, plus l'enfant se tait. Précisément, moi, il se plaint. Donc, moi, je trouve pas du tout que ce soit quelque chose qui a à voir avec la lamentation. Elle va très loin dans ce qui est irrémédiable, effectivement. Elle dit qu'elle ne peut même pas se tuer puisqu'elle est déjà morte. Elle dit des choses extrêmement fortes. Moi, j'ai pleuré, hein, en lisant ce bouquin. Parce que, comment est-ce que tu veux? Elle avait 15 mois quand son père est mort. Elle ne l'a donc pas connu. Comment est-ce que tu fais?
Il faut expliquer qu'à un moment donné, elle retrouve, une fois qu'elle est grande, évidemment, un ami qui a connu le père jeune.
Mais sauf que Sarah Chiche raconte la mort du père, qui est, je trouve, absolument bouleversante. Et comment est-ce que tu fais le deuil de quelqu'un que tu n'as pas connu, en fait? C'est une démultiplication de la douleur. Et c'est pas si mal écrit que ça, enfin.
Arnaud?
Déjà, au moins, c'est la preuve que la psychanalyse, ça marche. Ce qui est frappant quand même dans ce livre, c'est l'hyper-narcissisme de Sarah Chiche, hein, c'est-à-dire la fin. Et c'est quand même un chef-d'œuvre de réparation d'en arriver à ce niveau-là de force narcissique et d'écrire ce livre.
Peut-être que c'est ça qui l'a sauvé, la force narcissique.
Oui, enfin, elle raconte très bien comment à un moment, elle est dans le trou. C'est un personnage quasiment de Samuel Beckett. Elle est dans une chambre d'hôtel, les ordures s'accumulent. Il y a un moment, c'est même pas une dépression, là. Elle est en phase de disparition. Et effectivement, un livre, c'est toujours, ça ressemble vraiment, la forme du livre, c'est la même forme qu'une pierre tombale. C'est sans doute, il y a sans doute une raison, hein. Le même parallélépipède. Et là, effectivement, c'est un travail de deuil qui est effectué et dans les grandes largeurs. On veut dire que là, on pense qu'elle est sauvée, Sarah Chichet, tranquille pour elle.
Non, elle est sauvée, mais c'est pas un travail de deuil. Moi, je crois pas, justement.
Ah bah, si. Elle est justement passée de ce moment où son père avait disparu, puisqu'elle ne l'avait pas connu et qu'il n'y avait pas cette idée qu'il était mort. La scène, quand même, où on retrouve des vieux films de Super 8 et on les lui montre, puisqu'elle n'a aucun souvenir. Hein, là, on parle de souvenir écran en psychanalyse, mais là, c'est l'écran du souvenir, justement. On lui montre et elle va embrasser son père sur l'écran. Il y a des scènes comme ça en Algérie, une scène entre les deux frères qui se détestent, enfin, voilà, un schéma, voilà, la disparition du grand-père maternel qui a été donc déporté à Auschwitz et qui est parti ensuite en Afrique du Nord, qui a totalement disparu. Enfin, il y a toutes ces histoires, là. Il y a quand même un climat familial extrêmement oppressant et qu'elle arrive à restituer quand même dans un livre qui n'est pas très long, hein, qui fait 200 pages, avec des scènes très précises. Je trouve, là, il y a un rapport avec la mémoire. Elle restitue ça en petites scènes très choc.
T'as bien aimé.
Ouais, moi j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça très efficace, mais évidemment, encore une fois, on peut pas nier le fait que ça relève du roman de psychanalyse, voilà.
Alors, c'est Saturne, c'est Sarah Chiche. C'est au seuil et c'est le premier donc livre dont on parle au masque de la rentrée littéraire. Il y en aura d'autres évidemment tout au long de l'automne. À commencer par Comédie française au pluriel. Le nouveau roman chez Gallimard d'Éric Reynard, l'auteur de Cendrillon, du Système Victoria, de L'amour et les forêts, un gros roman pour le coup, de presque 500 pages, dont le héros Dimitri, 27 ans, est journaliste à l'AFP et il se lance dans une enquête sur la naissance d'Internet. Et il découvre qu'il a été développé, Internet, hein, de manière déterminante par un Français, tout ça moi je ne le savais pas, hein, l'ingénieur en informatique Louis Pouzin. Avec un Z, oui. Je suis allé faire derrière, là encore des recherches. Aujourd'hui âgé de 89 ans, Dimitri va l'interviewer et il apprend que les recherches de Pouzin, donc déterminantes, hein, ont été entravées puis suspendues par les pouvoirs publics de l'époque, donc dans les années 70, sous la pression de cet industriel ultra puissant et ultra lobbyiste qu'était Ambroise Roux, là encore.
Et qui a embobiné Valéry Giscard d'Estaing.
Et qui a, évidemment, Giscard étant la première, si j'ose dire, la deuxième victime après Pouzin d'Ambroise Roux. Avec ce roman, Éric Reynard fait donc le portrait de la France des jeux d'influence, des intérêts privés, du corporatisme, qui a choisi pour aller vite le Minitel contre Internet. Et ce sont les Américains.
C'est
quand même incroyable. Et ce sont les Américains qui se sont saisis de l'invention de Louis Pouzin qui vit toujours. Bon, là, il y a comme toujours chez Reynard, il y a aussi des histoires d'amour et la vie amoureuse de Dimitri est plutôt tumultueuse. Mais cette histoire-là, de la naissance d'Internet et de la manière dont l'invention a échappé à la France pour aller dans la corbeille des Américains, tout ça, je dois en tout cas à Éric Reynard de l'avoir découvert. Arnaud.
Oui, enfin, il y a ce roman-là, et puis il y en a un autre.
Oui, bien sûr,
Voilà, c'est quand même l'histoire d'un personnage, donc journaliste à l'AFP, mais qui procrastine pour écrire ses livres, ses romans. Et en fait, il en a deux en tête. Il y a un deuxième roman, hein, il y a un effet deux en un dans le livre de Reynard.
Il y a un peu une mise en abîme, comme les aime souvent d'ailleurs Éric Reynard. Hein.
Oui, et qui est un roman, là aussi, alors c'est pas spécialement la France, mais en l'occurrence c'est l'Europe, à travers la figure de Max Ernst. Comment Max Ernst, durant les années 40, a appris à Jackson Pollock la méthode du dripping. Comment il lui a dit, tu sais ce que tu devrais faire, et donc il lui montre ce qui va devenir le début de l'art abstrait américain, et avec cette idée qui est vrai, parce que je me souviens très bien d'avoir lu ce livre, que cette peinture américaine a été récupérée par la CIA pour faire ce qu'on appelle la guerre froide culturelle. Ça, il y a un très beau livre dont parle Éric Reynard d'une femme qui s'appelle France Sanders. Je me souviens très bien, le livre est paru en France en 2003 et c'est Jean-François Bizot qui dirigeait à l'époque Actuelle et Nova qui m'avait signalé l'importance de ce livre, c'est-à-dire comment les Américains ont utilisé la culture américaine pour lutter contre les Soviétiques à l'époque en finançant des expositions en Europe, notamment notamment de
Jackson Pollock. On s'éloigne un peu de Monsieur Poussin.
Bah, oui, non, parce qu'en fait, non, parce que les deux histoires sont liées. C'est-à-dire que je crois, hein, pourquoi ces deux histoires sont dans le livre de Reinhardt, pourquoi le livre s'appelle Comédie française au pluriel, c'est parce que dans les deux cas, il s'agit d'un moment où l'Europe aurait pu prendre la main, finalement, et l'a perdue face aux Américains.
Et Paris est devenu un sou. Enfin, c'est New York qui a pris le pas en matière d'art sur Paris, quoi.
Et donc, il y a la même résonance. Et alors, soit Ambroise Roux, moi, je connaissais pas du tout cette histoire, lorsqu'il raconte, parce que on sent que effectivement, Éric Reinhardt a vraiment rencontré Poussin, qu'il l'a réellement interviewé. Il raconte qu'il a interviewé Pierre Péan, qui est décédé récemment, mais je suis sûr qu'il l'a réellement rencontré aussi pour faire ce portrait d'Ambroise Roux. Il y a des choses extrêmement drôles. Le livre est vraiment d'un comique, et notamment avec les histoires d'amour, puisque c'est quand même un type qui a vu une fille en Espagne, qui la revoit deux fois à Paris, et au milieu du livre, incidemment, on apprend que par ailleurs il est atteint d'une maladie qui ne consiste à ne pas reconnaître les visages. La prosopagnosie, hein, c'est ça ? Prosopagnosie, donc cette maladie qui fait qu'on ne reconnaît pas les visages. C'est quand même hilarant, puisque toute l'histoire repose là-dessus, sur l'idée qu'il reconnaît cette fille.
Cela dit, il y a plein d'histoires, il y a celle que tu as racontée, il y en a encore d'autres, puisque c'est un énorme roman, c'est peut-être un des romans les plus vastes de la rentrée, non Patricia ?
À ce sujet d'ailleurs, il y a une scène absolument haletante, mais qui est vachement bien foutue, c'est quand il revoit cette fille à l'opéra. T'es là, t'as le cœur qui bat, c'est une pointe de suspense absolument extraordinaire. Mais c'est pas, alors c'est autour de ce qui sera Internet et du Minitel et tout ça. C'est pas un roman à thème. C'est à la fois hyper réaliste parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui racontent.
Mais comme toujours chez Reinhardt.
Voilà.
Hein.
Mais c'est aussi très très romanesque. Au début d'ailleurs, on se croirait dans un film de Truffaut, L'homme qui aimait les femmes, parce que ce type, il est complètement effectivement obsédé par les filles, on dirait Bec Bédé. Ben c'est vrai.
Mais je l'aime beaucoup, moi, ce personnage.
Il pense qu'aux rencontres et à la façon dont elles se produisent, parce que, et là-dessus, il y a des passages absolument marrants, parce que quand c'est improbable et que ça se produit, alors là, la relation peut être sacralisée. Sinon, non.
Et
là,
il s'intéresse à des petits détails, une cheville,
un
pied cambré, une oreille circulaire.
On savait déjà qu'il était obsédé par la pointure des filles. Hein. Il n'aime pas du tout les filles avec des grands pieds ou des trop petits.
Il avait un livre avec Louboutin. Hein.
Voilà. Et là, on découvre qu'il est obsédé par la forme de l'oreille. Hein.
Et les poils sous les bras.
Et les poils
partout. Il aime beaucoup.
Les poils tout court. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt la mode est plutôt de s'épiler un maximum.
Non, il y a un grand retour du poil, Patricia.
Il y a un grand retour du poil.
Ce passage-là, moi, j'ai beaucoup aimé.
C'est les Américains, là, encore. Hein.
Non,
encore
mais
une
et sur les moyens de communication.
Une influence des féministes. Et pourquoi est-ce qu'on serait obligé de s'enlever les poils?
Dans le L, il y a de plus en plus de poils.
Bien sûr.
Des poils partout.
Il y a des filles à poils.
On est à la mi-août, mais on va essayer quand même d'avancer un peu.
Et je trouve qu'il parle aussi bien du conformisme de notre époque et de la façon dont fonctionne, par exemple, dans les entreprises, sur l'humiliation et aussi sur ce que font les jeunes gens et les jeunes filles qui ont fait d'assez hautes études et comment, en fait, ils sont pris dans une espèce de tourbillon de servitude dont il est très difficile de se défaire. Et je crois que c'est assez vrai.
Frédéric ?
J'ai dit beaucoup de mal d'Éric
Reinhardt. Oui, tu n'avais pas été tendre au masque, d'ailleurs, dans mon souvenir.
Je crois que ces trois derniers romans m'avaient exaspéré. C'est quelqu'un qui est
à tort.
C'est un écrivain qu'on peut vite détester parce qu'il est assez prétentieux. Non. D'ailleurs, il y a des moments où c'est peut-être pas un défaut, mais enfin, il dit à un moment, relisez bien cette phrase, elle est importante. Oui. Il y a des choses comme ça. C'est pas grave. Laissez-moi parler, les gars. Je retourne ma veste sur ce roman-là. Donc, soyez heureux. Je retourne ma veste parce que vraiment, je crois qu'il revient à ce qu'il faisait de mieux. C'était ses premiers livres.
Est-ce que tu retournes ta veste?
Non, de toute façon, on a l'habitude.
D'ailleurs, tu n'en mets plus.
Il fait chaud, c'est pour ça. Donc, je sais pas. Je me souviens d'un livre qui s'appelait Le Moral des ménages en 2002, qui était très bien. Et voilà.
Et après, il y avait formidable.
Existence.
Cendrillon.
Voilà. Et là, il revient à ça en fait. Il fait vraiment un roman de sociologue qui s'intéresse, qui enquête sur la France. Ouais. Ça fait penser un peu à Aurélien Bélanger, à Michel Houellebecq aussi, peut-être sans l'humour, mais il y a
drôle.
Il y a des choses. Alors, ce que je préfère évidemment, c'est ce personnage qui est seul à Madrid et qui lit Montaigne dans un resto à la mode en matant les femmes. Et alors, il dit. Bon, il est vachement open, le mec.
Ça,
il est super chaud, mais lui, en Éric Reinhardt, ça se traduit par « il réclame d'être enchanté ». où il a un sens aigu du merveilleux. Ça veut dire qu'il est chaud, en fait.
Et enfin, puis, qu'il bande, hein, tu peux
oui,
dire
bon,
les
voilà.
Choses
oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, 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 oui.
Il bande énormément.
Ça fait, et je trouve que cette déambulation au départ, moi, ça m'a... Évidemment, là, je me suis dit, tiens, je m'identifie à ce personnage qui est là, qui est fasciné par la beauté et la grâce. Et ça fait penser à André Breton, cette déambulation madrilène. Et puis après...
Il y en a une très belle à Bordeaux aussi, qui est oui, oui, encore oui, oui. très, très, beaucoup
et
plus
puis,
belle.
Et puis après, il y a ces choses qu'il nous apprend sur Ambroise Roux, Internet, et comment la France est passée à côté d'Internet. Ça, c'est absolument fascinant. Le cabinet de lobbying, c'est très, très bien décrit. Et tu as raison.
C'est d'autant mieux décrit que c'est vrai.
Oui, mais surtout l'idée qu'on fait des études, on apprend des choses fascinantes. Oui. Pendant des années, on a des conversations intelligentes. Et puis tout d'un coup, on est embauché dans un endroit complètement débile et stupide avec des gens qui ont fait les mêmes études et qui s'emmerdent. Oui. Ça, c'est très, très bien vu. Et c'est pour ça, sans doute, qu'il est devenu écrivain.
Oui. Houellebecquien, ça, pour le coup.
Non, et pour tout ça, j'ai trouvé vraiment le livre réussi.
Olivia.
Oui, moi j'avais détesté celui d'avant et là je me réconcilie avec Reinhardt. C'est le retour du Reinhardt en fait, période Jean-Marc Roberts chez Stock, je trouve. Très flamboyant, avec beaucoup d'acuité sur l'époque. Alors c'est très riche, parfois c'est presque vertigineux, hein, parce que Arnaud disait il y a deux romans, moi je dirais qu'il y en a au moins trois, voire quatre. Mais ce qui relie le tout, c'est que c'est un livre qui interroge beaucoup le rapport entre le rêve et la réalité. Ouais. Entre un gars qui n'aime que le théâtre et qui se retrouve dans une entreprise de lobby. Moi, j'ai jamais su comment ça marchait les lobbyistes.
Éric Reinhardt, qui entre parenthèses, a fait aussi du théâtre. Il avait fait une pièce sur l'argent, d'ailleurs, il y a un an au rond-point qui était formidable.
Et il y a des passages sur le théâtre vraiment très intéressants.
Bah, il énumère tous les spectacles qu'il a vus à un moment pendant trois pages.
Oui, c'est vrai. Mais c'est drôle, ces énumérations. Oui, parce il y a beaucoup d'énumérations comme ça qui marchent très bien. Mais je trouve que c'est un livre qui interroge, oui, le rapport entre est-ce qu'il faut rêver sa vie ou est-ce qu'il faut la vivre.
Comédie française au pluriel.
C'est beau ce titre.
C'est chez Gallimard. Et oui, la présence du théâtre joue évidemment beaucoup dans ce titre. Et c'est signé Éric Reinhardt. Vous écoutez bien Le Masque et la Plume. Émission consacrée à l'actualité de la rentrée littéraire, de la nouvelle rentrée littéraire riche de près de 500, un peu plus de 500 romans. On continue avec Les Démons, le nouveau roman chez Stock du copain de Bec Bédé, Simon Liberati, l'auteur d'Eva et d'Occident. Portrait de groupe d'une jeune et plutôt belle fratrie dans son domaine familial de Fontainebleau, Tainé, qui a, je cite, la beauté empoisonnée d'un tableau pré-raphaélite, Serge, je cite, le prince des ténèbres, et le cadet, le plus fou, Alexis, plus Donatien, l'ami de la famille aux mains d'assassins, une fratrie frappée par un accident sur l'autoroute du Sud. On est au printemps 67, c'est-à-dire au moment où le monde bascule vers une époque nouvelle, la pop, la drogue, le plaisir et la guerre du Vietnam. Serge meurt, on peut le dire, broyé dans sa Maserati, encore une voiture pour Frédéric. Tainé est défigurée, elle part refaire son visage aux États-Unis. Quant à Alexis, il ne s'appartient plus. Un roman qui se déroule à Paris, New York, Cannes, Rome, j'en oublie, Bangkok, où on croise notamment Truman Capote, Andy Warhol, Paul Morand, Chardon, Aragon, Elsa Triolet. Un roman, nous dit l'éditeur, d'une rare ambition qui mêle l'intrigue balzacienne à l'hymne pop. Vous allez méditer ça, même Patricia. Un roman d'une ambition rare
qui mêle l'intrigue balzacienne
à l'hymne pop.
C'est de Manuel Carcassonne.
On va commencer, je le dis aux auditeurs, l'éditeur, le patron d'édition Stock. Patricia.
Le passage sur Bangkok est absolument inouï. Enfin, il ne faut pas le raconter. Mais enfin, là, il se lâche véritablement. Non, moi, j'ai adoré ce livre. J'ai trouvé d'abord que la langue est belle, les mots sont choisis, c'est mélodieux, c'est limpide,
voilà un styliste.
C'est simple, c'est un styliste. Il a un don pour parler des femmes, je veux dire, il a une perception très fine de la nature féminine et un intérêt réel pour l'altérité. C'est une peinture
un intérêt
à la
pour l'altérité.
Oui.
Oui, la femme, c'est l'altérité par rapport à l'homme qui écrit.
Je reprends ta phrase qui est très belle. Il a un grand intérêt pour l'altérité.
Oh, garçon, tu commences à m'embêter. Hein. C'est une peinture à la fois, disais-je, romanesque et historique. À certains moments, moi, je trouve que c'est magique sur les vicissitudes de la vie, sur l'exaltation, sur le masque, mais aussi sur
la plume.
Arrêter sur le désœuvrement intérieur. Je trouve que ça va loin. Ces personnages sont libres, mais ils sont aussi fatigués parce que c'est très fatigant.
Très fatigué, ah oui, ils sont fatigués, hein. Ça, c'est très mauvaise mine.
Bah, oui, mais parce que c'est fatigant de faire tout ça.
C'est un roman décadent.
Et de tenir sa liberté. Et les démons, je suis pas sûre que ce soit eux. Les démons, c'est peut-être ce qui plane aussi sur toutes nos têtes, hein.
Olivia.
Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété.
Moi, je crois que je ne suis pas assez droguée pour ce livre.
Moi, je me drogue pas.
Ça fait plusieurs émissions que...
Je suis désolée.
C'est un problème qui peut être arrangé. Hein.
Bon, il va falloir que je voie ça avec toi, puis je le relirai. Alors, moi, j'ai détesté le premier chapitre. Les adolescents qui se vautrent dans des jeux interdits avec des couvertures d'enfants sur les épaules. J'ai trouvé ça glauquissime dans un château. Tout ce que je déteste.
La morale.
Non, justement, c'est pas la morale. Le roman n'est pas le lieu de la morale. Mais après, je suis sans arrêt, j'oscille. Voilà, je suis le pendule de Foucault. Tout d'un coup, il me rattrape parce que je dois dire qu'il a beaucoup d'humour. Donc, il y a une scène qui me plaît. Et puis, tout d'un coup, je suis énervée par ces gens qui partent tout le temps aux toilettes prendre des shoots de drogue. Je ne sais pas comment on dit shoot de drogue, shot de drogue, shoot, je ne sais pas. Moi, je préfère Truman Capote quand il est sur un yacht au soleil et quand il est bronzé. Là,
C'est aussi dans le livre.
J'ai l'impression qu'on l'a déjà lu un peu... qui se pastiche lui-même. Alors je vous dis, tout d'un coup, il y a une scène belle. Le dernier de la fratrie, Alexis, qui rentre, et il y a sa mère qui est à la fenêtre du château. Elle a une robe de chambre, matelassée, et puis elle lui jette un truc. Il dit merci maman, et c'est un carambar, et on voit qu'elle comprend rien à ce qui arrive. C'est un peu pour moi le syndrome, parce que certes, c'est très très bien écrit, une Maserati, mais pour aller où ?
Tu te souviens que l'année dernière, on était à Nancy pour le Masque et la Plume. J'avais essayé de t'initier à l'anthologie des stupéfiants.
Que j'ai adoré.
Qu'avait fait Cécile
Guilbert. Bien sûr, Cécile Guilbert. Je l'ai gardé, c'est mon livre de chevet. Alors peut-être qu'il faudrait que je le termine entièrement.
Et là, tu avais avoué à l'antenne que tu ne connaissais pas ces substances-là, mais que tu avais aimé le livre.
Donc je trouve que c'est magnifiquement écrit, mais un jour, j'aimerais qu'il...
C'est important.
Arnaud. Oui, c'est important, évidemment.
Je ne t'ai pas encore donné la parole, Frédéric.
Sur autre chose.
L'autre jour, un peu tardivement, pour la première fois, j'ai vu Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Et je pensais au livre que Liberati a écrit sur l'affaire Sharon Tate. En voyant le film, je voyais la précision qu'il y avait dans le livre de Liberati. Et je me disais vraiment, Liberati, c'est le Tarantino de la littérature française. Il y a le même manière de procéder, hein, c'est-à-dire d'utiliser des personnages réels. Et là, tu en as cité quelques-uns, mais donc Brigitte Bardot, Andy Warhol.
Madame de Noailles aussi.
Madame de Noailles. Emmanuel Arsan surtout, donc, parce que quand même, toute la fin à Bangkok est une façon... Encore une fois, la Tarantino, de jouer de manière référentielle, citationnelle, avec le roman d'Emmanuel Arsan, qui a été en réalité écrit par son mari, comme le raconte Liberati, mais tout ça en introduisant de la fiction, parce que a priori, cette fratrie très dostoïevskienne, hein, vu le titre, et aussi, il faudrait parler de François-Marie Bagné, qui est une référence évidente pour le personnage de Donatien.
Qui va publier trois livres dans quelques jours, j'ai appris ça, j'ai reçu un
communiqué. Mais des livres avec Donatien. Il y a une scène absolument géniale quand il est dans le train, qu'il se met à genoux et qu'il se met à réciter.
Non, mais il y a vraiment. Et alors, bon, évidemment, d'un point de vue littéraire, je crois que là, il surclasse tout le monde. Il y a une sorte de précision et en même temps de limpidité dans ce qu'il écrit, une manière de travailler tout, la description, le dialogue. Il est vraiment là un styliste absolument hors pair dans ce roman-là.
Est-ce que je te donne la parole, Frédéric, ou pas ?
Bah oui, je crois que c'est bien de dire ce que dit Arnaud, parce que finalement, Le Masque et la Plume, c'est une émission sur la littérature, et la littérature, c'est quand même le style. Et là, on a affaire, évidemment, à un écrivain éblouissant. On le sent et on le voit à chaque page. Alors évidemment, oui, si on n'aime pas les partous de toxicomanes incestueux, peut-être qu'on peut se lasser.
On dit qu'on les connaît pas, on dit pas qu'on les aime pas.
Mais oui, c'est vrai que, franchement, c'est pas parce que c'est vrai que j'ai publié son premier roman, mais... Et puis c'est un ami, mais personne au monde n'écrit des livres pareils, c'est vrai. C'est quelqu'un qui prend les années 60, comme Modiano prend l'occupation allemande, et en fait quelque chose de féerique. Alors féerique, ça veut dire parfois abominable, parfois sublime, parfois cauchemardesque, parfois flou.
Moi j'aimerais qu'il me raconte aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un styliste hors pair, mais j'aimerais qu'il me raconte le monde d'aujourd'hui.
Il préfère la décadence
oui, mais quand tu,
à l'actualité. Ça,
mais
c'est
il
n'est
pas nostalgique. D'ailleurs, ce qui est intéressant chez lui, c'est que ce nihilisme de ses personnages, il ne se vautre pas dedans. Il le regarde avec exactement comme Dostoïevski avec ses personnages, avec un mélange de fascination et de répulsion. Et tu ne sais jamais s'il les aime ou il les déteste.
Mais c'est
ces
aussi
gens,
d'une tristesse infinie.
Ah, bien
c'est
sûr.
Pas,
oui,
bien c'est sûr. Pas d'une gaieté folle, ça c'est clair. Ouais.
Les démons, c'est chez Stock et c'est Simon Liberati. Une fille de rêve. C'est avec ce titre plutôt enjôleur qu'Éric Laurent, avec deux R, auteur de 12 romans aux éditions de Minuit, arrive chez Flammarion. Je crois que c'est un des rares cas d'auteurs à ce point fidèle aux éditions de Minuit qui passe avec Armes et Bagages chez un éditeur plus grand public. Les romans s'ouvrent en 82 au siège du magazine Dreamgirls, dirigé par, attention, Edgar Aimé Chambon de Rachepel, qui fait sa une sur Nikki Toxy. Nikki Toxy dénudée en titrant...
Soxy.
En titrant Volcanique. Une starlette, donc, des années 80, dont Éric Laurent prétend qu'il était temps de la tirer de l'oubli. Elle s'appelait en fait Nicole Soxy-Lange et avait connu la célébrité grâce à la publicité pour des coupe-fins et quelques émissions de télévisées de divertissement. Roman qui se déroule dans le triangle cher à Liberati et à Bec Bédé, c'est-à-dire Libération, Le Flore, Les Bains-Douches, où notre petite Nikki abuse, elle aussi, des substances. On croise, là, cette fois, Serge Julie, j'ai vu aussi Henri Chapier, et où tout se termine, on peut le dire, de manière plutôt noire. Et là, Frédéric, Une fille de rêve, ça t'a rappelé aussi des...
Mais j'avais moi-même commis un roman un peu sur ce sujet de comment la société détruit la beauté, en fait. Là, c'est vraiment ça, c'est un corps sublime d'une jeune femme qui débarque de province à Paris et comment elle va tourner la tête de tout le monde et comment on va utiliser ce pouvoir et qu'elle va s'abîmer progressivement. C'est vraiment l'histoire d'une descente aux enfers. J'aime beaucoup la façon dont écrit Éric Laurent. Ça peut être agaçant parce qu'il aime bien les mots compliqués, les verbes et les adjectifs compliqués. Il fait ça depuis longtemps, chez Minuit. C'est un livre sadique parce qu'on regarde cette fille se détruire et comment tous ces mecs sordides la détruisent. Ça se passe dans les années 80, donc c'est pas tout à fait Loana, mais ça peut faire penser à Loana ou à des jolies femmes qui arrivent, qui débarquent à Paris pour réussir.
Ah oui, et qui après sont détruites par contre.
Elle est devenue, parce qu'elle grossit beaucoup à un moment. Bon, bref, c'est... Oui, c'est un livre aussi sur le male gaze, ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui, mais qui est simplement le regard masculin toxique sur la femme. C'est peut-être un livre féministe, d'ailleurs, d'une manière un peu...
Ah bon ?
Appropriation.
Alors là,
mais oui. Mais oui, parce que tu montres le pouvoir des hommes et de la sexualité, comment l'exploitation de cette femme objet va la briser intégralement. Donc il y a quelque chose de féministe. L'auteur n'approuve pas forcément ce qu'il raconte, ma chère.
Oui, mais encore...
Non, ce qu'il raconte, encore, c'est cette époque, c'est-à-dire les années 80, qui était évidemment très différente.
Il ne lui donne jamais la parole, donc je trouve...
Oui, elle est un peu gourde.
C'est un objet du début à la fin.
C'est un objet du début jusqu'à la fin, donc je trouve pas du tout que ce soit un livre féministe,
Olivia,
si je puis me permettre. Écoutez, moi, je m'en voudrais de laminer un livre qui est sur le point de sortir, mais moi, je trouve que c'est un livre extrêmement démodé, qu'on a déjà lu, beaucoup mieux chez Liberati. Alors, pour le coup...
Pardon, il l'a déjà écrit.
Comment quand ça, il l'a déjà écrit?
Un beau début qu'il avait publié chez Minuit, c'était la même histoire.
Ah, je l'avais pas lu.
C'était la même histoire. Et il recycle en mettant Nana, etc. Mais
oui, parce qu'il y a, elle rencontre un cinéaste.
C'est une Nana moderne.
Voilà.
Elle rencontre un cinéaste qui veut adapter Nana Zola.
Une espèce de mélange de Nana et Loana.
C'est pas cassé, quoi.
D'abord, peut-être. Alors, en tant que femme, moi, je suis choquée par le fait qu'il ne lui donne jamais la parole, qu'elle est uniquement traitée comme un objet. C'est un livre qui tendrait à prouver que tous les hommes sont des sadiques, ce que je ne crois pas, et que toutes les femmes sont des idiotes, ce que je ne crois pas non plus.
Mais je crois pas qu'il croit ça non plus. Je pense que c'est
un
roman.
Je trouve que tout est attendu. Tu sais très bien qu'elle va devenir une petite stripteaseuse un peu minable, que son heure de gloire, ça va être sur la 5, qu'elle va être traitée comme du bétail, qu'elle va grossir, qui est le péché mortel de toutes les starlettes, qu'elle va revenir encore plus belle après une cure de désintoxication, et que tout ça va finir très mal. Il n'y a jamais une page
où
tu es étonnée. Alors l'écriture est très maniérée. Moi, j'ai été très sensible à certains romans d'Éric Laurent, mais là, je trouve qu'elle n'est pas mise au service d'une intrigue qui colle à... La littérature, c'est quand même une écriture qui sert un propos. Et c'est là où Simon Liberati est très grand.
Ah,
parce qu'il y a une espèce d'adéquation...
Tu retournes ta veste, toi aussi.
J'en ai pas non plus. Par une adéquation parfaite entre son style et son propos. Là, non, cette espèce de fille, ce milieu qu'il décrit des années 80, je sais pas, c'est
bien,
une espèce de truc sur Ardisson.
Les bains, c'est très juste sur les bains.
Moi,
et
j'ai
sur
trouvé ça
glauque. Ce qui se passait au bain,
les
bains.
Non, mais
il s'est documenté, démodé, clairement.
Ouais. Non, ah oui, non, mais t'as l'impression la question, qu'il s'en tire. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas publié par les éditions de Minuit?
Est-ce que ce livre-là ne correspondait pas
à la fameuse
couverture blanche avec l'étoile de Minuit, des éditions de Minuit? Arnaud?
Je pense que je suis de l'avis d'Olivia, en fait. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce livre. J'ai jamais été un grand fan de l'écriture d'Éric Laurent. Moi, le côté Maître Capello, là, au bout d'un moment, ça va bien. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport au sujet. Et effectivement, on rêve d'un Liberati s'empoignant de la même histoire. Là, on a l'impression que ce livre est un gag, en fait, qui ne prend pas au sérieux cette histoire.
Mais c'est typiquement Minuit, ça. Regarde ce que fait Jean Echenoz. Il y a toujours ce décalage.
Jean Echenoz ne va pas prendre un sujet aussi pondéreux que la déchéance d'une
starlette. Et c'est l'écriture absolument opposée.
Ah oui, en plus totalement opposée.
Ça s'intitule Une fille de rêve, et c'est un titre ironique évidemment. Et il y a un côté sadique, c'est vrai, comme Rob Grillet, qui est le grand écrivain du nouveau roman. Donc tout ça est cohérent.
Mais quel rapport avec Rob Grillet?
Mélange du sadisme de Rob Grillet et de l'ironie d'Echenoz.
Oh non, pas du tout. Non, je suis pas du tout d'accord. Non.
Moi non plus.
Il y a dans le projet quelque chose qui ne fonctionne pas, même si il y a la volonté de faire un livre très documenté. De toute évidence, il a lu l'autobiographie qui a été écrite par Jean-François Kervéhan, du patron des bains-douches, Hubert Bukowza. Tout ce qu'il dit sur
le premier étage,
Alain Pacadis, sa libération, ouais. Puis ensuite Éric Dahan, on reconnaît le personnage d'Éric Dahan lorsqu'il tenait cette chronique de Nat Clubbing dans Libération. Tout ça est juste, et en même temps, encore une fois, tout ça a envie de partir vers le gag, vers la petite blague, vers une ironie qui n'a pas lieu d'être, quoi. Et donc il ne prend pas son sujet au sérieux, et à la fin ça ne fonctionne pas.
Patricia.
Moi je me suis beaucoup ennuyée, puisqu'il m'a vraiment gênée, c'est que alors j'ai la mémoire qui flanche ou je suis devenue complètement dingue, mais c'était l'histoire d'un beau début.
Et c'était pareil,
il me semble qu'il n'y avait pas le parallèle avec Nana. Et donc je me suis dit, mais il se fiche de nous, il est en train de recycler
Modiano réécrit toujours le même livre.
Ah non.
Sarah Chiche, son histoire, c'est la même que le précédent.
Non, c'est un univers. C'est
on
pas
a le droit.
C'est jamais les mêmes.
Ça m'a fait penser au Jane Mansfield de Liberati.
Là, c'est édulcoré.
Un livre sur le sacrifice d'une
Patricia.
C'est édulcoré, c'est plat, c'est sans charme. Enfin, moi, je me suis franchement enquiquinée.
Vous n'aimez pas les anti-héroïnes? C'est un livre
sur une fille de rêve.
Si, on aime les anti-héroïnes.
Une fille de rêve. Et Dieu sait que Patricia a fréquenté les bains douches. Je peux te dire. Alors,
en même temps, Frédéric, on y allait ensemble.
Pas un soir sans aller au bain-douche.
C'est moi qui l'ai initié, parce que je suis beaucoup plus âgée.
Ah, c'est toi? C'est donc Éric Laurent, et c'est chez Flammarion.
Il était petit garçon, tu te souviens la première fois?
Attention, mais ne tu te rends pas. C'est la nitroglycérine, cette révélation.
Et on termine cette émission de la mi-août sur la rentrée littéraire avec Du côté des Indiens, le deuxième roman après Les Rêveurs, qui a eu un succès phénoménal, d'Isabelle Carré chez Grasset, dont le héros a 10 ans, c'est Ziad. Il habite à Courbevoie avec ses parents, Anne et Bertrand, dans un immeuble où une voisine du 5e, Muriel, célibataire, comédienne, chez qui Bertrand se rend trop souvent. Donc Muriel qui rêverait d'être la mère du petit Ziad, un roman où s'invitent assez vite les affaires Weinstein et MeToo à travers ce qu'a vécu Muriel autrefois dans le monde du cinéma. Je suis du côté des Indiens, pas des cow-boys, dit Isabelle Carré, dont je rappelle qu'elle vient de camper, ça n'a rien à voir, mais c'est juste un rappel, de camper une juvénile Yvonne de Gaulle dans le film de Gabriel Le Baumin. Du côté des Indiens, Arnaud.
Bah, écoutez, dans rentrée littéraire, le mot important, c'est quand même littéraire. Et là, je crois que le compte n'est pas bon du tout, hein, mais pas du tout. C'est-à-dire que tout est bancal. L'expression est bancale. À un moment, il y a des gendarmes qui encerclent une porte. Je sais pas, mais un livre, c'est aussi un travail un peu collectif. D'ailleurs, elle remercie plein de gens à la fin.
Il y a deux pages de remerciements à la fin.
Oui, deux pages de remerciements. Je pense que toutes ces personnes n'ont pas pensé que on n'encerclait pas une porte, mais qu'on l'encadrait, quoi. Je veux dire, vraiment, là, vous dites, là, l'espèce de barbarisme, d'expressions hasardeuses, et puis là aussi un côté ramasse-miettes de l'actualité, c'est qu'on a tout, hein. L'antisémitisme, l'abus sexuel, les migrants, c'est une espèce de revue de presse, hein, de tour d'horizon à peu près de l'actualité dans ce qu'elle a de plus anxiogène, et tout ça ne fonctionne mais absolument pas, les personnages n'arrivent pas du tout à exister. Je trouve que Isabelle Carré devrait se consacrer uniquement au cinéma.
Olivia.
Moi, je trouve qu'on peut pas faire seulement des livres sur ce qui se passait dans les toilettes du palace dans les années 80. Et que c'est pas mal aussi de raconter ce qui se passe aujourd'hui. Tu dis ramasse-miettes de l'actu. Moi, je trouve que c'est certes un livre qui a des maladresses, qu'elle a écrit très vite. Mais je trouve que c'était un livre très intéressant.
Elle n'était pas obligée non plus, hein.
C'est un livre très intéressant.
Vous rappelez que le premier était très autobiographique.
Sur...
Hein.
Oui.
Donc c'est un peu différent.
Oui, justement, celui-là, il est plus risqué. C'est son deuxième roman. Et je trouve que c'est un livre très sensible et très intéressant sur la fin de l'insouciance. Moi, j'aime beaucoup les scènes du petit garçon du début qui attend son père. Il est dans le hall de son appartement. Il veut absolument lui montrer qu'il a un carnet avec des bonnes notes. Il entend l'ascenseur qui monte et l'ascenseur ne s'arrête pas. Moi, ça m'a fait penser
5e.
À le petit Antoine Doinel qui, tout d'un coup, dans la rue, il voit sa mère embrasser un autre homme. C'est la fin de l'insouciance de l'enfant. Et puis après, il y a quand même le milieu du livre et la partie la plus intéressante sur la fin de l'insouciance d'une jeune femme qui est une actrice et qui va être abusée, un abus sexuel et un abus de pouvoir. Et je trouve qu'elle le fait très bien parce qu'elle le fait pas dans le sensationnel. Elle explore justement cette sorte de zone grise qui fait que tout d'un coup, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On se sent à la fois responsable et coupable alors qu'évidemment, on ne l'est en rien. Et je trouve qu'elle a évité le piège d'une déclaration sensationnelle, qu'elle s'est sûrement servie de ce qui était arrivé à plusieurs actrices, et qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce qui est dit là sur les relations entre les acteurs, les actrices et les metteurs en scène.
Ce que tu dis pas aussi, c'est que elle emmène le petit garçon de 10 ans, Ziad, sur un tournage.
Sur un tournage.
La personne, c'est Muriel, c'est la maîtresse de son père qui habite au-dessus, au 5e étage. Elle emmène ce petit garçon sur un tournage et toute la description du tournage de film français, évidemment, là, pour le coup, elle sait de quoi elle parle. C'est extrêmement drôle et détaillé. Il y a des choses que j'avais jamais trouvées dans un roman. Par exemple, les acteurs qui jouent très très bien quand la caméra est sur eux et qui foutent plus rien quand c'est sur le contre-champ sur l'autre, qui regardent ailleurs et qui essayent même de saboter le talent de l'acteur d'en face. Ça, j'avais pas entendu ça, ni lu ça dans un livre. Je trouve que peut-être qu'elle a été trop ambitieuse, qu'elle a voulu raconter trop d'histoires. Il y a le père, il y a la mère, le fils, la maîtresse, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais honnêtement, parmi les acteurs qui se mettent à écrire des livres, c'est quelqu'un qu'il faut suivre, je crois.
Patricia.
Ouais, c'est pas extraordinairement écrit, je suis d'accord, mais il faut, c'est son deuxième livre, laissons-la s'installer un peu. Je trouve que c'est quand même assez courageux aussi de se lancer carrément dans un autre métier. Moi, je suis comme toi, Olivia, j'ai adoré le début. Je trouve que se mettre dans la peau d'un petit garçon, c'est pas si évident que ça, de parler comme quand on est petit, à hauteur
non, mais
de.
On pense à la vie devant soi, c'est ça, la vie devant soi, le titre d'Aja.
Bien sûr. Agent
l'avait fait de manière géniale.
Oui, alors là, c'est peut-être pas génial, mais c'est très juste quand même. Il souffre en silence, il observe tout, il écoute tout ce que font ses parents, tout ce qu'ils se disent, il a horreur quand ils se disputent.
Arnaud, tu avais défendu au prix de Flore...
Sophia Aouine.
Oui, ça ressemble aussi à Sophia Aouine un peu.
Oui, mais enfin, Sophia Aouine, elle racontait une seule histoire, elle en racontait pas 12.
C'est l'histoire d'un personnage
de cette Muriel que tu suis. Eh
bien, justement...
C'est un professionnel profession,
t'es,
là.
T'es sévère. Et les rapports entre ce petit
garçon
et la maîtresse de son père, je trouve que c'était pas évident non plus avec d'abord cette espèce de méfiance qu'il a.
D'abord, parce il la déteste.
Et ensuite, au contraire, comme elle lui fait faire des trucs sympas, il se met à l'aimer et puis il se marre bien et tout ça. Ça vient très naturellement, comme après, quand elle parle de MeToo, des conditions dans lesquelles les femmes travaillent dans le cinéma, tout ça vient assez naturellement. C'est fluide, ça coule. Non, il y a pas.
Quand elle raconte à ce moment-là qu'une journaliste l'a appelée alors qu'elle était
d'une nouvelle observateur
pour lui demander son avis sur l'affaire, les affaires d'abus et notamment.
Elle a dit non parce qu'elle voulait pas avoir de réaction à chaud.
Et en fait, ce livre est pour elle une manière de répondre à la question qu'on lui a posée.
Et je trouve qu'il y a un climat. Il y a un climat dans ce.
Et même la troisième histoire qui est dingue.
Oui.
Il y a un truc qui m'a bien plu.
Mais qu'est-ce que tu appelles la troisième histoire?
Bah parce qu'il y a, après, il y a l'histoire de la mère, il y a l'histoire de l'enfant, il y a l'histoire de cette jeune femme.
Et le monde qui, pour l'enfant, s'écroule.
Et exactement. Et je trouve que tout ça est relié par le titre. Moi, j'aime beaucoup le titre, du côté des Indiens, d'être du côté un peu...
Des perdants.
De ceux qui disparaissent.
C'est assez joli.
Je trouve ça assez joli. Quand même.
Ça fait un peu victimaire, mais elle explique le titre à la fin en disant qu'il faut savoir perdre comme Djokovic.
Exactement. J'adore la scène avec Djokovic, j'adore le tennis. Et je trouve que c'est pas du tout victimaire, justement... Dans ce flot de livres qui sont sortis sur ce sujet, eh ben non, elle dit qu'on peut se réparer et qu'il faut savoir garder ses cicatrices. Il y a une comparaison avec la porcelaine japonaise.
Et moi, je parie que c'est un des livres qui va le mieux se vendre de la rentrée.
Bah, mais attends, encore une fois, Les Rêveurs avaient été un succès énorme. Donc voilà, il y a aussi y a ceux qui sont
peut-être
fidèles.
Que c'est un livre plus maladroit que Les Rêveurs, mais à mon avis, c'est un livre plus intéressant.
Et puis maintenant, c'est devenu Yvonne de Gaulle. Donc,
et voilà, c'est Yvonne de Gaulle qui publie.
Il faut lire Yvonne de Gaulle.
Un roman, oui.
On va aller voir, surtout Yvonne de Gaulle. Moi, je ne l'ai pas vu, ça vaut le coup.
Bon.
Oui ou non? Bah, réponds.
Non. du côté des Indiens,
je suis d'accord, ça vaut pas le coup.
Du côté des Indiens,
malheureusement,
c'est que la période notamment de Londres et vous apprenez pas grand chose.
Isabelle Carré joue parfaitement.
Non, très bien, elle joue très bien.
C'est une
Yvonne
fille d'une fraîcheur, d'une générosité, d'une genre. Enfin, je trouve qu'elle
et Lambert Wilson
porte,
a le physique de Gaulle.
Oh oui.
Du côté des Indiens,
il avait déjà celui de l'abbé Pierre.
C'était Isabelle Carré.
Et du commandant Cousteau.
Du commandant Cousteau.
Ça devient le spécialiste des biopics.
Chez Grasset, je le disais, 511 romans. J'espère que vous allez conseiller un autre livre, si possible un premier roman, de cette rentrée littéraire qui arrive. Encore une fois, massive et riche. On va commencer par le conseil de Patricia.
Alors, c'est pas un premier roman, parce que c'est vrai, je suis honnête, je n'ai pas encore eu le temps d'en lire, mais c'est un clin d'œil à Frédéric Pommier, qui a publié Le quart d'heure de célébrité.
Notre confrère de cette même chaîne.
De cette même chaîne. Et c'est une sorte de puzzle comme ça qui forme société, où il raconte des histoires de gens complètement inconnus qui, à un moment donné, font quelque chose de... Alors, il parle, par exemple, de Thomas Brel, celui qui s'était fichu en haut d'un arbre boulevard Saint-Germain, là, près de qui venait du Tarn, parce que l'homme qui aimait les arbres, etc. Donc, qui est ce type? Et il y a une histoire que je trouve formidable d'un Australien qui s'appelle David Goodall, qui avait 104 ans et qui, à un moment donné, s'est dit « bon, ça suffit », qui est allé en Suisse et qui s'est endormi, selon ses vœux, en mangeant du cheesecake et en écoutant la 9e symphonie de Beethoven. Je trouve que ces histoires sont à la fois tendres, réalistes, poétiques, exactement comme...
C'est Frédéric Pommier et c'est au seuil...
Non, c'est aux Équateurs.
Ah, aux Équateurs, pardon. Oui. Le conseil de Frédéric.
Alors, contrairement à Patricia, moi je suis un grand professionnel et donc j'ai choisi un premier roman. J'ai feuilleté beaucoup de premiers romans pour faire mon travail, consciencieusement. Et puis j'ai été accroché par une phrase à un moment dans un livre, c'est « Ne me regarde pas sur ce ton, s'il te plaît ».
Oh, c'est bien.
Et c'était dans un premier livre de Fabrice Capizzano, « La fille du chasse-neige au diable Vauvert ». C'est deux frères et une sœur. Et le plus jeune frère, musicien, tombe amoureux d'une apicultrice qui est la fille du chasse-neige, hein, qui passe par là. C'est un style très drôle, très vivant, très romantique, et ça fait du bien. Je suis peut-être un peu gnangnan, mais un grand roman d'amour, finalement. C'est peut-être un peu ce qu'on a envie de lire, là.
Et c'est au Diable Vauvert, c'est ça?
Au Diable Vauvert. L'auteur a été apiculteur pendant 10 ans, et donc il est beaucoup question des abeilles et des ruches. Et voilà. Et il appartient, je trouve, à une nouvelle école, qui est proche de Nicolas Mathieu. Vous vous souvenez, ce prix Goncourt,
leurs enfants après eux.
Il y a deux ans.
Mon conseil, c'est aussi un premier roman, enfin un premier récit. Ça s'appelle Le Fumoir, et c'est signé Marius Jauffray. C'est chez Anne Carrière, et le fils de Régis Jauffray, de l'auteur de Papa, donc, aujourd'hui âgé de 31 ans, raconte comment, après avoir abusé non seulement de l'alcool, mais aussi du Valium, il faut dire qu'il a été, au moment où il va à l'hosto, il a 2,5 dans le sang, ce qui n'est pas négligeable, il a été interné sous contrainte à Sainte-Anne. Récit absolument glaçant qu'on croirait sorti d'ailleurs de l'imagination diabolique de son père, de Régis Jauffray, lequel Régis Jauffray écrivait dans un de ses livres que toutes les familles sont des asiles de fous. Et cette balade terriblement oppressante à Sainte-Anne, et donc signer le fumoir. Pourquoi le fumoir ? Parce que c'est l'endroit, c'est le seul moment où il peut un peu, si j'ose dire, j'allais presque dire respirer, non, enfin, en tout cas, tirer sur ses clopes. Et là, tout d'un coup, il a le sentiment d'être un tout petit peu libre.
Et c'est donc... Et l'hospitalisation sous contrainte, il faut dire que c'est un truc absolument horrible. Hein.
Et là, il y a que le frère qui essaye d'empêcher la chose, le frère de Marius, pendant que les parents, dont Régis Geoffrey, sont en Russie. C'est donc le fumoir, découvrez le fils de Régis, qui s'appelle Marius Geoffrey, et c'est chez Zane Carrière. Le conseil d'Olivia.
Alors, je n'ai pas trouvé de premier roman encore. Je suis comme Patricia, j'en ai ouvert beaucoup, mais pour le moment, je n'étais pas très convaincue. Alors, c'est un troisième roman que je vous conseille, et parce qu'il est drôle, et parce qu'il est mélancolique. Enfin, il est absolument tout ce que j'aime. C'est le troisième roman de Fabrice Caro, qui avait publié Le Discours l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui est un auteur de BD absolument génial. Si vous ne connaissez pas Zai, foncez l'acheter. Open Bar, mais vraiment d'une drôlerie. C'est une sorte de Claire Bretéché d'aujourd'hui. Et là, c'est un homme, il a 46 ans, et 2 micro-événements vont un peu le faire basculer. Il reçoit la même semaine, vous savez, une enveloppe de l'assurance maladie pour le dépistage du cancer colorectal, ce qui lui fout un bon coup de bourdon. Et en même temps, il est convoqué à l'école, scène drôlatique, parce que son fils de 14 ans a fait un dessin avec 2 professeurs dans une situation non équivoque. Et la première chose à laquelle il pense, c'est qu'il a... Il y a évidemment un texte qui est assez peu équivoque aussi, que je ne peux pas dire ici, et il a envie de dire, au moins, il n'a pas fait de faute d'orthographe. Rien que ça, ça m'a fait rire. Et à partir de ça, toute son existence bascule. C'est très drôle et en même temps, c'est la drôlerie au service d'une sorte de mélancolie de l'existence. Que j'aime beaucoup,
Caro,
c'est chez Gallimard.
Alias Fab Caro.
Fab Caro.
Et le conseil pour finir d'Arnaud ?
Un premier roman aussi, celui de la journaliste Aude Lancelin, qui publie La Fièvre aux éditions, ces éditions dont le nom...
Les liens qui libèrent.
Les liens qui libèrent. Magnifique trouvaille, paraît-il, de Bernard Maris.
Oui, c'est Bernard qui l'avait
trouvé. Bernard
Maris
qui avait trouvé ce nom d'édition magnifique. Alors, pour ceux qui n'ont pas aimé Alexandre Jardin, c'est aussi un roman sur le mouvement des Gilets jaunes, mais alors très différent, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus tendu aussi, avec 3 personnages. Un qui est journaliste, un jeune journaliste à Libération, un gilet jaune de la Creuse, qui a, semble-t-il, réellement existé, que Aude Lancelin rencontrée, elle s'est inspirée d'un véritable gilet jaune qu'elle a connu, et puis un intellectuel d'extrême gauche dont elle fait un portrait pour le moins féroce. Et c'est un livre très triste, très pessimiste et aussi d'une colère froide envers les intellectuels d'extrême gauche. Et franchement, c'est un bon livre. Bon
premier roman d'Aude Lancelin, Au lien qui libère. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup d'être venu à la mi-août à France Inter. Merci Olivia de Lamberterie, Patricia Martin,
je vous en prie, Jérôme, merci.
Arnaud Vivian et Frédéric Becbédé pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Viviane.
C'est lui, Garcin. Si on l'applaudissait.
Et aujourd'hui à la technique au Théâtre de l'Alliance Française. Il y avait Cédric Châtelu, Pierre-Henri, Laurent Tarot, que je remercie, ainsi que Xavier Pestugia pour sa réalisation. On va bientôt reprendre les enregistrements publics. Donc, si vous souhaitez assister au Masque et la Plume en public restreint, attention, jeudi 20 août, ce sera de 20h à 22h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, à Paris, vous pouvez vous inscrire sur le site de la Maison de la Radio.fr à émission publique. Ce sera deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films et je vous dis à samedi et dimanche prochain sur France Inter, évidemment.